J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse partager un thème qui, à mon sens, est des plus importants. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la conversion à Dieu. La conversion à Dieu telle que la Bible nous l'enseigne. Et il faut savoir que la conversion à Dieu est une expérience que nous devons tous, les uns et les autres, vivre si nous voulons aller au ciel. Il n'y a personne qui ira au ciel sans avoir expérimenté la conversion. La conversion, bien sûr, biblique. D'où l'importance de bien connaître ce que dit la Bible sur ce thème. Et j'aimerais, en quelques points, ce matin, mettre l'accent sur l'importance de se convertir à Dieu. L'importance et le caractère indispensable de la conversion à Dieu. Mais peut-être avant cela, peut-être redéfinir ce qu'est la conversion. Qu'est-ce que la conversion ? Se convertir dans la Bible ne veut pas dire quitter une religion pour aller se réfugier dans une autre. Ce n'est pas ça la conversion. La conversion, ce n'est pas adhérer à une idéologie ou à une doctrine quelconque qui nous plaît, qui correspond à bien à nos attentes. Ce n'est pas ça la conversion. Le mot conversion vient du verbe grec epistrepho. Et ce verbe grec signifie se retourner. Il signifie également revenir, faire littéralement demi-tour. Alors quelque part, la conversion biblique peut être définie comme un demi-tour par rapport au péché et un attachement sincère à Dieu. Une autre définition aussi qui est intéressante, la conversion consiste à se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Parce qu'ils sont diamétralement opposés. Le péché, c'est les ténèbres. Et quand on se tourne vers Dieu, c'est la lumière. On dit généralement que la conversion, c'est la réponse de l'homme face au salut que Dieu lui propose. La conversion, c'est aussi la résultante, on va dire la combinaison de deux éléments qui marchent de toute façon donc de pair. C'est la repentance et la foi. On a besoin de ces deux éléments pour vivre pleinement la réelle conversion, une réelle conversion à Dieu. La repentance qui n'est ni plus ni moins, c'est un changement de mentalité. Je rentre en moi-même, je suis profondément convaincu, eh bien, que j'ai offensé non seulement le cœur de Dieu, mais peut-être blessé eh bien, mon prochain d'une manière horizontale. Alors je me repens, je confesse mon péché à Dieu. C'est ça la repentance. C'est avouer, confesser nos péchés à Dieu dans le désir de ne plus recommencer, bien sûr. Dans le désir d'abandonner nos péchés. Et à côté de cela, il y a la foi. Parce que personne ne peut vivre une réelle repentance s'il n'est pas convaincu de ce qu'il fait. C'est pour ça que la foi est nécessaire. La foi, eh bien, c'est ce qui va nous permettre eh bien, de pouvoir vivre la repentance. Et ensemble, ces deux éléments vont nous permettre de vivre la conversion. Un verset pour confirmer cela, c'est Actes chapitre 19, les versets 18 et 19. Regardez ce qu'il est écrit. Actes 19, versets 18 et 19, je vous laisse le temps de le chercher. Il y a un frère un jour qui m'a dit, oh Joël, tu vas trop vite, tu ne nous laisses pas le temps de chercher. Et j'ai ce frère en pensée, que j'aime beaucoup, et je lui dis merci. Plusieurs de ceux qui avaient, écoutez bien les verbes, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient faire quoi ? Confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est parce qu'au départ, ils ont cru qu'ils ont pu mettre cette foi en valoir, en confessant leurs péchés et en abandonnant leur ancienne vie. Quels sont les fruits d'une réelle conversion à Dieu ? Les fruits d'une réelle conversion à Dieu, l'apôtre Paul nous l'explique d'une manière concrète au travers de l'expérience des chrétiens de l'église de Thessalonique. Est-ce que vous connaissez ce passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 9 et 10 ? Et regardez ce qu'il est dit de cette église, dont je suis jaloux, mais d'une sainte jalousie. Il nous est dit concernant cette église où il y avait des frères, des sœurs. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ils ont fait deux choses. Ils se sont d'abord détournés de leur ancienne vie, détournés des idoles, pour ensuite se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et je dis quelque part qu'un véritable chrétien qui s'est réellement converti à Dieu, quelque part il emporte les fruits. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de pseudo-chrétien dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de pseudo-chrétien parmi le peuple de Dieu. Il y a des hommes, des femmes qui se sont réellement convertis à Dieu et qui portent des fruits d'ailleurs qui sont en harmonie avec la parole de Dieu. Le chrétien qui s'est réellement bien converti, il choisit d'être juste là où les autres choisissent d'être injustes. Il choisit d'être patient là où les autres sont impatients. Celui qui a réellement connu une réelle conversion, il choisit de dire la vérité là où les gens continuent à mentir. Il choisit d'aimer son ennemi là où les autres choisiraient d'haïr leur ennemi. Et un autre exemple, il choisit de pardonner là où les autres choisissent de garder rancune. C'est important d'analyser notre cœur. Une fois, je me suis permis de dire à certaines personnes, convertissez-vous. Et les gens ont été choqués par rapport à ce que j'ai dit, mais je pense que ça venait de la part de Dieu. Et on a besoin de laisser le Seigneur encore travailler nos cœurs, bien nous transformer de l'intérieur, on va y revenir. J'ai parlé en introduction du caractère indispensable, de la conversion à Dieu. Alors permettez-moi juste de vous donner quelques exemples pour le démontrer. Premièrement, la conversion est la porte ouverte pour bénéficier de la vie éternelle que seul le Seigneur Jésus donne. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Regardez ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, parlant du diable, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » J'ai pour vous d'autres versions pour bien comprendre ce passage. « Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. » Une autre version, la version Chouraki, nous dit la chose suivante. « Et moi, je viens pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient avec surabondance. » Ce n'est pas du pléonasme. Mais l'évangéliste Jean voudrait bien mettre l'accent sur ce que Jésus a voulu exprimer au travers de ses paroles. Si le diable il vient pour détruire, égorger, Jésus, lui, il est venu ici-bas, cette terre, pour nous donner la vie véritable, la vie abondante. Pourquoi? Parce qu'il est la source de la vie, il est le prince de la vie. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et quand on vient à lui, il nous communique la vie. D'ailleurs, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais malheureusement, nous ne pouvons que constater que beaucoup de personnes autour de nous ne vivent plus. Ils subissent. Ils subissent la vie. Il y en a qui même essaient de survivre. Ils sont déjà isolés. Ils sont dans la souffrance. Ils sont blessés de toutes parts. Ils survivent. Et je vais même plus loin. Il y en a qui ont renoncé à la vie. Il y en a qui finissent par être dégoûtés de la vie. Et j'en profite pour rebondir sur ce que vous avez entendu aussi au courant de la semaine dernière, de cet homme dont je ne connais pas le visage, que je n'ai jamais vu, et qui a tenté à sa vie, et qui a réussi à se donner la mort. On pourrait passer cette affaire comme un fait divers, parce que je me rends compte, moi le premier, on s'habitue aux choses. On écoute le journal, on s'habitue à ses souffrances, etc. Mais quand une personne de l'église m'a parlé de ce suicide, ça a été comme un coup au cœur. Et j'en étais attristé. Et le Saint-Esprit est attristé, même pour une âme qui se perd. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un fait divers. C'est une créature qui était unique et qui est, à un moment donné, n'a plus goût à la vie. Et s'est laissé séduire par le destructeur, le voleur, qui vient dérober, égorger et détruire. Ce fait divers, et j'ai envie de dire plutôt ce drame, ne peut que nous encourager, frères et sœurs, à considérer plus que jamais la mission qui est la nôtre, mais aussi notre responsabilité de pouvoir parler quand le Saint-Esprit nous pousse à le faire. Dans les circonstances, et la Bible précise, favorables ou non, il y a des circonstances qui semblent être non favorables à nos yeux, mais c'est notre raisonnement qui nous empêche d'agir et d'obéir comme le Seigneur le veut. L'apôtre Paul va dire à ce jeune serviteur de Dieu, « Je t'en supplie, prêche en toute occasion, trouve toutes les circonstances dans la vie pour dire aux gens qu'il reste encore un espoir. » Peut-être, je le disais mardi dernier, peut-être que ce jeune, on l'a rencontré. Peut-être que c'était au jeu en casino, peut-être que c'est... Vous n'en savez rien. Il n'y a que Dieu qui le sait. Et son cœur saigne. Parce que à cet endroit précis, dans ce cœur même, l'ennemi a remporté une bataille. Mais la victoire finale appartient à Jésus. Et je dis, si quelqu'un n'a plus goût à la vie ici, je vous dis de la part du Seigneur, tournez-vous vers le Seigneur. Il est le prince de la vie. Et tournez-vous vers lui, consiste à, justement, ni plus ni moins, consiste à se repentir et à se convertir à Dieu. Consiste à placer toute votre foi en ce Dieu d'amour qui vous aime. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Quand on connaît le Seigneur, quand on s'est converti à Dieu, c'est impossible. On aime plus que jamais la vie. Parce que le prince de la vie est venu nous donner, alléluia, à apprécier tout à nouveau la vie. Regardez ce que cet homme a dit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 38, verset 16. Ésaïe 38, verset 16. Est-ce que vous connaissez ce passage ? Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis. Tu me rends à la vie. Dieu veut te rendre à la vie. On peut être chrétien et ne plus avoir goût à la vie. C'est pour ça que je dis ça ce matin. Tourne-toi vers le Seigneur et il va te rendre la vie. Il va te donner à goûter cette vie merveilleuse, glorieuse. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui même, Jésus désire t'offrir cette vie nouvelle, cette vie abondante. Mais pour cela, Jésus-Christ t'invite à te convertir à Dieu, en te détournant de ton péché, en te détournant de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu et au contraire en te tournant vers le Dieu vivant et vrai. Vous savez, ne nous trompons pas sur les intentions de Dieu, les intentions bienveillantes de Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour. Et ce Dieu d'amour, il a déjà prouvé son amour à notre égard. Il a offert celui qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ, son Fils. Un homme est mort à notre place, plus qu'un homme, Jésus, le Fils de Dieu. Dieu lui-même a accepté de prendre notre place, à prendre le châtiment, sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. C'est par ses meurtrissures ce matin que tu peux retrouver la vie. Ézéchiel, chapitre 18, versets 31 et 32, nous dit la chose suivante. Ézéchiel, chapitre 18, les versets 31 et 32, je vous laisse le temps de le chercher. Ézéchiel, chapitre 18, versets 31 et 32. « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. » Et regardez ce qu'il dit. « Convertissez-vous donc, et alors vivez. » Tu veux vivre ? Tu veux aimer la vie ? Convertis-toi. Oh mais Joël, attends, tu t'adresses à des chrétiens ? Et justement, je vais aller un peu plus loin avec vous, et je voudrais m'adresser aux chrétiens, oui, de longue date, mais aux chrétiens tout récents, en disant, et en partageant avec vous un deuxième point, qui est le suivant. La conversion est indispensable si nous voulons être utilisés par Dieu. Et je voudrais vous donner juste un exemple. C'est l'exemple de notre ami Pierre. Regardez son histoire, Luc 22, du verset 31 à 33. Il nous faut le relire, ce passage. même si on l'a lu 100 fois, la 101e fois, aujourd'hui donc, eh bien, Dieu va vous éclairer encore. Dieu va nous éclairer. Luc chapitre 22, du verset 31 jusqu'au verset 33. Et nous lisons ensemble Luc chapitre 22, du verset 31 jusqu'au verset 33. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais, et béni soit Dieu pour les mais de Dieu, hein, M-A-I-S et M-E-T-S. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, alors c'est là, je l'ai même souligné sur ma Bible, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est alors que Pierre va lui dire, je suis prêt, écoute-moi bien Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus de lui dire, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Est-ce que vous avez lu ce que j'ai lu avec vous? Est-ce que vous avez entendu ce que eh bien, j'ai lu avec vous ce matin? Pierre, ou Simon, comme vous voulez, celui qui a fait 3 ans d'école biblique avec le meilleur des enseignants, c'est-à-dire Jésus, reçoit en conclusion de ses 3 années d'études avec le meilleur des maîtres. Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et on peut comprendre que cet homme a été piqué au plus profond de eh bien, peut-être de sa fierté propre, de son orgueil propre. Pierre avait un recoin de sa vie de disciples qui n'étaient pas pleinement sanctifiés par Dieu. Pierre était présomptueux, au point qu'il ne se gênait pas pour se mettre en avant ou même se distinguer par rapport aux autres disciples. Et je voudrais même vous faire lire un autre passage, par exemple Marc chapitre 14, verset 26, pour juste confirmer ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est pas, ce texte, il n'est pas assez fort. Regardez dans Marc chapitre 14, du verset 26 au verset 31, regardez ce que va oser dire notre ami Pierre. Pierre, l'homme de Dieu, Pierre, le vaillant, Pierre, eh bien, celui qui aimait le Seigneur, ça, il ne faut pas, bien sûr, le remettre en cause. Marc, chapitre 14, du verset 26 jusqu'au verset 31, ça vaut le coup de le lire. Marc, chapitre 14, verset 26 à 31. « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et alors Pierre, toujours lui, hein. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, moi, je ne serai pas scandalisé. Quand Thomas, tu vois Thomas là, quand lui sera scandalisé, moi, je ne serai pas scandalisé. Quand tous ici présents, les autres disciples seront scandalisés, moi, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi là, Pierre, toi qui annonces ces paroles, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et regardez, mais ça c'est le comble, ça c'est l'apothéose, ça c'est l'être humain. Verset 31. Mais Pierre reprit plus fortement. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Vous voyez, même dans sa présomption, même dans sa forme d'orgueil, il a même entraîné le reste des disciples. Il a même crié plus fort que le Seigneur Jésus. Comprenez vers quoi je veux en venir? On peut avoir des marches, des années de conversion avec le Seigneur. On peut avoir une carte de membre à jour. Et pourtant avoir néanmoins besoin que le Seigneur continue à convertir des recoins de notre cœur. Il a parlé plus fortement que le Seigneur. Vous savez, je vais vous donner un petit conseil. Quand Jésus, le Dieu omniscient, parle sur nos vies, soyons assez sages pour l'écouter, car ce n'est pas un scoop, il ne se trompe jamais. Et Pierre a bien voulu vivre cette expérience. Peut-être c'était la leçon dont il avait besoin à bien de connaître. Quelques heures après son échange avec Jésus, Pierre a appris à ses dépens cette réelle vérité. Jésus, il ne se trompe jamais. Et il est important, en toute humilité, de savoir écouter avec sagesse ce que Dieu dit sur nos vies. Vous savez, je le dis, j'ouvre mon cœur. Elia, j'étais encore étudiant, le Seigneur, dans ma chambre d'étudiant, m'avait dit certaines choses. Sur le coup, ça m'avait un petit peu blessé, piqué. Ce n'était pas si encourageant que ça. Mais plus tard, des années plus tard, tout ce qu'il m'avait dit, c'était exactement ce que j'étais en train de vivre. Et quand on prend le temps de laisser Dieu nous parler, eh bien, il nous parle. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé la bouche, et il nous aime, et il veut nous éclairer. Et il nous dit ce matin qu'on a certainement besoin encore de laisser le Seigneur émonder, couper encore, retrancher, extirper de nos vies encore des choses qui appartiennent eh bien, à notre vieille nature. Et que le Seigneur eh bien, voudrait extirper de nos vies afin que nous puissions pleinement le servir. Pierre, ce jour-là, alors eh bien qu'il avait renié le Seigneur à plusieurs reprises, la Bible nous dit qu'il est parti amèrement, il a pleuré. Et ce n'était pas des larmes de crocodile. Il est rentré en lui-même, il a demandé pardon humblement au Seigneur et Dieu lui a fait grâce. Et son cœur, à ce moment-là, a été changé, transformé. En un mot, Pierre avait laissé le Seigneur convertir le recoin de son cœur qui était présomptueux. Oui, on peut dire Amen. Il était maintenant dans les conditions favorables pour servir Dieu et pour affermir ses frères, comme Jésus lui avait dit. Parce que Jésus lui a dit, quand tu seras converti, c'était chose faite, tu affermiras tes frères. Vous savez, je vais vous le dire, il y a des choses que Dieu en réserve pour chacune de nos vies. Pour ça, on n'a même pas à se jalouser les uns les autres. Il y a une part pour chacun. Quelque chose qui de toute façon toujours plus grand que nous. Parce que notre Dieu est un grand Dieu. Et quand on entre dans ses plans, dans les desseins qu'il a pour nous, ça nous dépasse toujours. Des choses glorieuses. Mais quelquefois, nous ne pouvons pas pleinement entrer dans ses plans. Pourquoi ? Parce que nous ne laissons pas encore le Seigneur, par son Esprit Saint, convertir au plus profond de nos vies ce qui a besoin d'être converti. Et dans cette affaire, Dieu est patient. On le voit quand eh bien, Dieu a pris cet homme, Moïse, qu'il avait choisi pour des desseins bien particuliers, et l'a mis 40 ans derrière des brebis. Vous ne croyez pas qu'il a eu le temps de se convertir là, Moïse ? Soyez pas choqués par ce mot, la conversion. On a expliqué ce que ça veut dire, c'est se détourner du péché pour se tourner plus que jamais vers le Seigneur. La conversion, c'est revenir de tout notre cœur. On a besoin de revenir de cœur à Dieu. Pierre a pu par la suite affermir ses frères. Mais la question est la suivante, est-ce que nous désirons réellement nous convertir ? Vous savez, dès l'Ancien Testament, eh bien, Dieu n'a de cesse d'appeler son peuple à la conversion, à revenir à lui, à se tourner vers lui, à se détourner du mal. Juste un exemple, regardez, et c'est quand même assez fort. Là, Dieu ne s'adresse pas au peuple païen, il s'adresse à son peuple. Regardez ce qu'il dit dans Jérémie. Jérémie, chapitre 8, les versets 4 à 6. Jérémie, chapitre 8, je vous laisse le temps de le chercher, il faut que vous ayez ce texte devant les yeux. Jérémie se trouve dans l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 8, du verset 4 jusqu'au verset 6. J'entends des bruits de feuilles, et c'est bon signe. Et lisons ensemble. Dis-leur, et ce matin je le dis de la part de Dieu. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever ? Ou se détourne-t-on sans revenir ? Il peut se faire que dans notre vie chrétienne, on essuie quelques chutes. C'est tout à fait normal. Nous sommes imparfaits les uns les autres. C'est humain. Mais Dieu interpelle son peuple et lui dit, est-ce que l'on tombe sans se relever ? Ou se détourne-t-on sans revenir ? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements ? Il persiste dans la tromperie. Et quelquefois on pense tromper l'autre, mais finalement on se trompe d'abord soi-même. Par de faux raisonnements, mais on ne peut pas tromper Dieu. Il persiste dans la tromperie, il refuse, qu'est-ce qui est écrit ? Il refuse de se convertir. Voyez, ne soyons pas choqués. Si Dieu nous demande, nous invite de continuer à convertir certains points de nos vies, c'est biblique. ils refusent de se convertir, autrement dit, de revenir à Dieu, je suis attentif et j'écoute, parce que Dieu est un Dieu patient. Ils ne parlent pas comme ils devraient. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Et me dit, qu'ai-je fait ? Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne voulait pas entendre. Pierre ne voulait pas entendre ce que Jésus lui disait. Pourtant, c'était la réalité. Il est omniscient. Vous savez, le Seigneur n'a pas attendu de nous montrer, de nous rappeler que nous étions pécheurs pour nous choisir. C'est notre Père, il est devenu notre Père. Mais il te dit ce matin de sa part, je veux t'emmener plus loin, je veux t'utiliser, mais tu as besoin encore de te tenir devant moi. Tu as besoin de dire, arrête, tu as besoin d'arrêter de dire, qu'ai-je fait ? Et comme il est dit à la fin de ce verset 6, tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Autrement dit, continuent leur vie chrétienne comme ça. Dieu leur a parlé, Dieu leur a dit de pardonner, et ils continuent à la course en cheval, et continuent à bien louer, à adorer le Seigneur, etc. On fait le saut d'oreille. L'autre Dieu lui a dit à bien de pouvoir restituer ce qu'il a dérobé, et il continue à faire la sourde oreille. Et tu le sais très bien, parce que quand tu vois la personne qui est bien longtemps en arrière, à qui tu as pris eh bien, ces choses qui ne t'appartenaient pas, tu te rappelles de la chose. C'est preuve que le Saint-Esprit est en train de te montrer eh bien, qu'il y a une situation à pouvoir régler. On a besoin de convertir nos oreilles. On a besoin de convertir nos bouches. On a besoin de convertir nos yeux. On a besoin de convertir des recoins de notre cœur. Mon frère, ma sœur, n'y aurait-il pas encore en nous des recoins de nos vies qui méritent d'être convertis, qui méritent de revenir à Dieu ? Ou bien sommes-nous arrivés au point que Dieu nous prenne, comme il l'a fait à l'égard d'Enoch ? Le Seigneur nous prendra quand nous serons fin prêts, parce qu'il nous aime trop. Et ne voudrait pas que nous soyons à côté de la plaque quand il reviendra. Aujourd'hui même, Dieu peut nous aider à sanctifier nos vies et nos cœurs. Je voudrais terminer avec un dernier point concernant la conversion et son importance. La conversion est indispensable si nous voulons connaître des temps de rafraîchissement. Et j'ai aimé ce dernier chant, ce vieux cantique, j'ose à le dire, qu'on a pu chanter de la part de Dieu. Fraîche rosée, c'est la prière. Le désir du peuple de Dieu d'être rafraîchi. C'est aussi le désir, alléluia, notre désir, et c'est aussi le désir de Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans Actes chapitre 3, versets 19 à 21. C'est l'apôtre Pierre qui s'exprime devant la foule et dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, mais aussi afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Qui veut des temps de rafraîchissement ? Serais-je le seul ? Mais non, je vois plusieurs mains. On veut tous se rattendre à rafraîchissement. Mais il y a ici la clé. On a besoin de se repentir, de se convertir. Quand l'apôtre Pierre a parlé du temps de rafraîchissement, et on le voit donc à la suite de ces versets, eh bien, il fait mention ni plus ni moins du retour du Seigneur. Ce sera un temps glorieux. Fini les pleurs, fini les deuils. On décollera. La Bible nous dit, cette fois-ci-là, quand Jésus-Christ reviendra, il ne déposera pas ses pieds sur la terre. Il s'arrêtera sur les nuées. Et c'est là qu'il a fixé le rendez-vous. C'est là le point de ralliement. Et nous décollerons à sa rencontre. Et à partir de ce moment-là, toutes les vicissitudes de la vie, toutes les adversités, c'est fini. C'est fini. On va commencer par les noces de l'agneau pour après perdurer dans ce temps de rafraîchissement d'éternité en éternité. Des choses qui nous échappent. On essaye d'expliquer les choses, de ce qui va se passer là-haut, mais soyons honnêtes, personne véritablement ne sait ce qui se passe là-haut. L'apôtre Paul, quand il est revenu, il a parlé d'un troisième ciel. Qui savait qu'il y avait un troisième ciel ? Mais le peu qu'il a pu dire, il n'a pas pu trouver des mots. Il a dit, il a vu, et il a entendu des choses ineffables qu'il ne peut raconter. Dieu est infiniment grand. et on a eu raison de le louer, de l'adorer. Et il y a des temps de rafraîchissement que Dieu en réserve, ah bien, lorsqu'il reviendra sur les nuées. Mais j'ai envie de dire que ces temps de rafraîchissement, ils commencent dès à présent. Nous en avons déjà les prémices ici-bas, ah bien, sur cette terre. Au travers de notre vie chrétienne, le Seigneur Jésus, il veut nous rafraîchir, il veut nous renouveler tout le long de la marche, parce qu'il sait qu'on a besoin de sa grâce, on a besoin de sa force. C'est indéniable. Et je veux être rafraîchi. Ce matin, j'ai été rafraîchi au travers de ce temps de louange. Vous savez pourquoi ? Quand je loue, je me concentre. Je me rends compte que même dans les temps de louange, il y a des choses qui pourraient nous distraire. Je me concentre sur mon Dieu. Et le Seigneur le voit. S'il y a un qui connaît nos cœurs quand on loue, quand on adore le Seigneur, c'est le Seigneur. Pour ça, ne vous découragez pas. Louez, adorez le Seigneur de tout votre cœur. Seigneur, quelle qu'a été ma semaine, Seigneur, je veux ce temps de rafraîchissement au travers de la louange, de l'adoration. Alors par la foi, parce que c'est par la foi qu'on loue le Seigneur. Si je n'ai pas de conviction, eh bien que lorsque je loue le Seigneur, je suis devant le trône du Seigneur, frères et sœurs, je vais chanter, mais d'une manière religieuse. Je vais continuer à me laisser distraire par l'ennemi, c'est ce qu'il cherche. Et il a en horreur quand le peuple de Dieu loue et adore le nom vivant, le nom de Dieu. Et c'est ce qu'on a fait. Nous nous sommes spirituellement prosternés devant Dieu. Et on a proclamé sa royauté. Tout genou fléchira devant, alléluia, notre Seigneur. Regardez ce qu'a dit le psalmiste dans le psaume 92, verset 11. Ce petit verset, il en dit long. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Reçois ce matin cette huile fraîche. Reçois ce matin cette huile fraîche pour aimer davantage le Seigneur. Vous savez, c'est l'amour qui va nous tenir. C'est l'amour qui va nous permettre d'attendre comme il le faut le retour du Seigneur. Et pour cela, il nous faut être loin du Saint-Esprit. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin de recevoir cette huile fraîche. On a besoin de cette onction un peu pour nous armer de force spirituelle pour faire face à l'ennemi. Il s'est déchaîné. Il ne s'attarde pas sur ceux qui lui appartiennent déjà. Il s'acharne sur les véritables chrétiens. C'est pour ça, toi qui connais et qui vis cette tourmente, n'aie pas peur de ce que tu vis. C'est tout à fait normal, cette fournaise qui t'entoure. Mais le Seigneur est au milieu même de ta barque. Il est avec toi dans la fournaise comme il a été avec Shadrach, Meshach et Abednego. N'aie pas peur. C'est pour ça, ce matin, il te donne cette huile fraîche et te donne cette onction. Avez-vous vu ? Tu me donnes la force du buffle. Il n'a pas dit « tu me donnes la force du caniche hein ». La force du buffle. La vraie version, c'est tu me donnes la force de l'auroch. L'auroch, c'était l'ancêtre du buffle actuel, le petit buffle d'Afrique. Je dis petit, mais il est quand même impressionnant. Moi, j'aime beaucoup les reportages animaliers. Mais l'auroch était ce buffle, l'ancêtre du buffle actuel, et il arrivait bien à mesurer des tailles presque exagérées. On ne prenait pas le buffle pour labourer. Le buffle de l'époque était indomptable. Il avait peur de personne. Et Dieu dit par la bouche du psalmiste, tu me donnes la force du buffle. Et ça ne peut se faire que par l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. On a besoin de cette onction rafraîchissante, afin que nous soyons remplis de joie. Arrête d'être triste. Enlève ce manteau de tristesse. Reviens à ton Dieu. Obéis à ce qu'il te demande. Et tu retrouveras cette joie. J'apporterai moi-même cette huile fraîche. Et je te bénirai. Oui, il veut nous apporter des temps de rafraîchissement. Mais pour revenir à Actes chapitre 3, verset 19, il nous donne une condition à remplir. Et cette condition, c'est de nous repentir et de nous convertir pour que nos péchés ne viennent plus faire obstacle à la bénédiction qu'il veut déverser dans nos vies, dans nos cœurs. Je voudrais conclure en rappelant que, et nous l'avons vu, nous avons entendu ensemble, la conversion est quelque part une pièce maîtresse, indispensable dans la vie du véritable chrétien. La conversion, et je me répète, elle est indispensable pour bénéficier de la vie abondante que le Seigneur nous offre. La vie véritable, la vie en surabondance qu'il offre à ceux et celles qui placent leur confiance en lui, mais aussi qui se convertissent en se repentant La conversion à Dieu est également indispensable pour accomplir ce à quoi Dieu nous appelle. Et je l'ai dit, il y a des desseins merveilleux. Et je crois que quand on sera dans le ciel, peut-être avec larmes, mais le Seigneur essuiera toute larme, nous dit la parole de Dieu, il nous montrera d'abord tout ce que peut-être on a pu louper à cause de nos insistances, à cause de nos présomptions, à cause de nos endurcissements, à cause de nos rébellions, à cause du fait qu'on n'a pas voulu pleinement laisser le Seigneur encore travailler nos cœurs, travailler nos vies. Et je voudrais terminer, mieux encore, la conversion est la porte ouverte qui nous permet de vivre des temps de rafraîchissement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de prier Dieu et lui demander sa grâce pour qu'il puisse encore émonder, qu'il puisse extirper, qu'il puisse, excusez-moi l'expression, convertir ceux qui ont besoin encore d'être convertis en nous, afin que nous soyons fin prêts pour son prochain retour, parce que le Seigneur, il est à la porte. Les événements, tout ce qui nous entoure, est en train, ni plus ni moins, de nous avertir et nous inviter à pouvoir lever la tête. Jésus est à la porte. Préparons-nous, frères et sœurs. Prions ensemble le Seigneur. Merci pour qui tu es. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es celui qui nous a attirés à toi, qui nous a aimés, qui a inscrit notre nom dans ton livre de vie. Tu nous appelles par notre prénom, notre nom. Et tu nous dis même que là-haut dans le ciel, tu nous prépares un nom nouveau, que seuls nous connaîtrons. Seigneur, il y a des choses meilleures qui nous attendent. Mais en attendant, Seigneur, nous voudrions savoir entendre, avoir des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire. Aide-nous à nous dépouiller de toute œuvre des ténèbres. Parce que, Seigneur, le grand jour de ton retour se lève. Seigneur, la lumière de ta présence se manifestera. Et Seigneur, Père, mon Dieu, tel des aimants, nous partirons, Seigneur, à ta rencontre. Oh, je te prie dans ta grâce que rien ne puisse alourdir, Seigneur, cet heureux événement. Que rien nous donne, Seigneur, à rester pour compte lorsque tu reviendras sur les nuées. Donne-nous des victoires. Donne-nous à prendre position face au péché. Donne-nous de la haine du mal et à nous tourner vers toi. Donne-nous, Seigneur, à nous détourner, Seigneur, des choses, des œuvres mauvaises, des œuvres de la chair, afin, Seigneur, de nous attacher à toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Père céleste, pour la seule gloire de ton nom.